Bonsoir, bienvenue aux informés qui ouvrent ce soir les portes des prisons. Enfin, façon de parler, 40 000 téléphones portables saisis derrière les barreaux l'an dernier, soit l'équivalent de plus d'un téléphone pour deux détenus en France. De quoi s'inquiéter de l'état de la pénitentiaire. La rentrée, ce sera demain pour le gouvernement, avec en ligne de mire des réformes sensibles, celle de la santé avec des urgences au bord de la crise de nerfs, et surtout un budget casse-tête ou comment couper dans les dépenses d'un côté tout en les multipliant de l'autre. Autant de questions auxquelles les marcheurs n'auront pas à répondre puisqu'ils n'organisent pas de rentrée politique comme les autres partis, vous le verrez. On en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir à vous, Sybille Vincent-Dant.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe à Libération. Avec nous également Albert Zénou, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef au service politique du Figaro. Également invité Xavier Alberti, bienvenue à vous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous vous définissez comme entrepreneur engagé, membre fondateur de Jamais Sans Elle, je le précise pour ceux qui nous écoutent, association de promotion de la mixité, et président de la Transition, mouvement citoyen issu de la société civile. Et à nos côtés également, bonsoir Pierre Jacquemin. Bienvenue,
bonsoir.
Rédacteur en chef de la revue Regard. Les informés, c'est jusqu'à 21h sur France Info à la radio. Son nom est le Diciotti. C'est un navire des gardes-côtes italiens avec 170 migrants à son bord. Et il mouille dans le port sicilien de Catane pour ce que l'on appelle le poliment, avec pudeur, une escale technique face à ses passagers en déshérence. Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur, a une nouvelle fois menacé de les renvoyer en Libye avec interdiction de débarquer. Les migrants ont été récupérés dans les eaux internationales de Malte, mais ils voulaient se rendre à Lampedusa en Italie. C'est donc l'histoire qui se répète depuis l'Odyssée de l'Aquarius. L'Italie qui supporte la charge en première ligne depuis trop longtemps, ferme ses ports et réclame à l'Europe de prendre toute sa part. Faut-il, Sybille Vincent-Dant, blâmer ce gouvernement italien ?
La complication dans cette histoire, c'est que quand l'Italie, ce sont de mauvaises personnes qui tiennent des raisonnements qui sont acceptables. Quand ils disent qu'il faudrait que l'Europe, tous les pays d'Europe, prennent une partie du problème entre leurs mains. Alors, cela étant, les gens ne sont pas des parts de gâteau qu'on se répartit. Les gens, ils ont aussi des parcours, ils ont envie d'aller à tel ou tel endroit, ils sont anglophones ou pas. Enfin, il y a différentes raisons, ils ont de la famille dans tel et tel pays. Ça ne se gère pas véritablement comme du calcul arithmétique. Mais malheureusement, quand Salvini, qui est un sale personnage...
Pourquoi vous dites mauvaise personne ? C'est un jugement de valeur ou ça se repose sur quoi, en fait ?
Sur quoi ?
Quand vous dites mauvaise personne, qu'est-ce que vous voulez exprimer ?
Je voulais exprimer que c'est quand même pas le gouvernement qu'on aurait rêvé pour l'Italie, et qu'il est en perpétuelle mauvaise foi. Quand il dit « je vais renvoyer les gens en Libye », il ne peut techniquement, juridiquement pas, je ne parle même pas sur le plan moral, mais enfin c'est interdit par les conventions.
Ouais. Donc, voilà. Albert Zénou, je vous ai vu un petit peu hausser les épaules. Qu'est-ce qui vous agace ?
Déjà, le jugement moral, bon, on peut toujours avoir des jugements moraux, mais il y a un règlement politique. Il a été élu par le peuple italien.
Ça,
alors, certes, il ne représente pas la majorité du peuple italien, mais lui, avec les 5 étoiles, le mouvement 5 étoiles, ils ont réussi à former une coalition. Donc, la démocratie nous demande de respecter le choix des Italiens. Maintenant, le problème des migrants,
Ce qui ne nous empêche pas d'en penser quelque chose.
Oui, bien sûr. Le problème de l'immigration est insoluble. Il se reposera toujours. Il y aura toujours des Aquarius, il y aura toujours des Diciotti, il y en aura toujours. Alors, il faut régler. Alors c'est facile de dire, faut régler le problème à la base dans les pays. Mais là aussi, ça va être très très compliqué. Et on peut pas reprocher aux Italiens de mettre le point là où ça fait mal, sur l'hypocrisie européenne.
Hypocrisie, vous dites.
Bien sûr. Ouais. Pendant très longtemps, on a laissé l'Italie en frontal avec pratiquement toute seule. Tout le monde s'en débarrassait, très bien content que les bateaux accostaient à Lampedusa ou en Sicile, et puis aux Italiens de régler le problème.
Xavier Alberti, vous avez l'impression que le traitement du sort de ce qu'on appelle les migrants, enfin de ces personnes qui viennent échouer sur nos côtes, est en train d'évoluer en Europe, ou ça bouge pas en fait ?
On n'est plus au même moment que celui de la crise migratoire, parce qu'on n'est plus dans la crise migratoire. La crise migratoire, c'était 2015, c'était environ 1 million de migrants qui traversaient la Méditerranée, avec les drames qu'on connaît autour de ça. Je crois que depuis le début de l'année 2018, c'est 50 000 migrants qui ont traversé la Méditerranée. Je rappelle juste que la population de l'Union européenne, c'est 500 millions d'habitants. Donc on est en train de parler de rien. on est en train de parler, non pas d'une crise migratoire, mais d'une crise politique, d'une crise diplomatique qui oppose des visions de l'Europe en vue de la bataille pour l'Europe ou contre l'Europe.
Dites-moi, ce sujet est un prétexte pour les élections européennes qui arrivent?
Mais bien sûr, le sujet de 177 migrants n'est pas un sujet migratoire. C'est pas un sujet migratoire, c'est un sujet politique. Voilà, s'il y avait 2 millions de migrants qui traversaient la Méditerranée ou qui arrivaient par la route des Balkans, on aurait un sujet migratoire. Il n'y a pas de sujet migratoire en 2018. Il y a eu un sujet migratoire en 2015. Et les Italiens nous font payer aujourd'hui ce qui s'est passé en 2015. Mais le sujet, c'est plus 2018. Le sujet, c'est les élections européennes, ouais. Une vision de l'Europe et la velléité de Salvini de faire exploser l'Europe pour le coup et de se servir d'une fausse crise migratoire actuelle pour ancrer
pour faire de la politique.
Des clivages.
Pour vous, Pierre Jacquemin également, le sujet est clos?
Ah non, il n'est pas clos et sans doute il va être au cœur d'ailleurs de l'année qui vient de commencer, là, l'année en tout cas de septembre jusqu'à juin prochain. On voit bien que les élections européennes vont être nourries de la question migratoire. Moi je crois fondamentalement que effectivement les migrants d'une manière générale sont devenus le bouc émissaire de l'échec de l'Union européenne, de l'Europe. Tous les présidents, que ce soit Angela Merkel qui a fait marche arrière sur la question migratoire, que ce soit Emmanuel Macron qui a lui-même fait marche arrière, on se souvient pendant la campagne combien il disait que l'immigration d'une manière générale était une richesse pour notre pays. Il faut oser le dire que c'est une richesse pour notre pays, une richesse culturelle, une richesse, osons-le aussi, économique. On voit combien le milieu du tourisme soutient justement la possibilité des demandeurs d'asile d'obtenir
encore
des papiers pour pouvoir travailler.
Bien accueillir ces personnes.
Mais bien sûr, et donc c'est d'ailleurs là, et je trouve qu'il y a à la fois une critique à faire sur les responsables politiques qui sont aujourd'hui au cœur de l'actualité et au cœur des responsabilités, mais il y a aussi l'opposition. J'entends quand même effectivement à gauche notamment des discours qui sont des discours accueillants ou des discours qui disent il faut faire attention à comment les conditions de départ, etc. Mais j'entends peu de discours qui diraient justement c'est une chance, l'immigration est une chance, les migrations sont une chance, et que donc la question elle ne peut pas se poser en termes de... elle ne peut pas se poser en termes d'ouverture ou fermeture des frontières. L'ouverture est une nécessité, d'abord parce que c'est notre devoir en tant qu'Européens, et surtout parce qu'aujourd'hui on est au début du commencement des questions migratoires avec la question climatique, notamment,
on s'en dit quelques mots encore, mais tout d'abord 20h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Emmanuel Langlois.
Après 2 semaines et demie de vacances, Emmanuel Macron et son épouse ont quitté cet après-midi le fort de Brégançon. Le chef de l'État assistera demain au premier conseil des ministres de rentrée. Quand je serai grand, je voudrais être Benalla ou moine pédophile. Provocation signée Booba, envoyée sur Twitter depuis sa cellule via sa manager. Manière pour le rappeur de dénoncer la peine qu'il encourt pour sa bagarre avec Caris à l'aéroport d'Orly. Tous les moyens de l'État sont mobilisés pour obtenir la libération de Sophie Petrona. Réponse de l'Élysée après le nouvel appel lancé par la famille de l'autre. La Française est détenue depuis fin 2016 au Mali par un groupe proche d'Al-Qaïda. Près d'une semaine après avoir été secourus, 170 migrants sont toujours bloqués en mer sur un navire au large de Catane en Sicile avec interdiction de débarquer. L'Italie menace à nouveau de les renvoyer en Libye si aucune solution à l'échelle européenne n'est trouvée pour les accueillir. Et puis l'Iran qui dévoile son premier avion de combat de fabrication 100% locale. En pleine tension avec les États-Unis sur le dossier nucléaire, Téhéran affirme que ses capacités militaires sont uniquement dissuasives et visent à une paix durable.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous allons rebondir sur ce que disait à l'instant Pierre Jacquemin. Je me tourne vers vous, Sybille Vincent. Dont 54% des Français opposés à l'accueil par la France d'une partie des migrants recueillis en Méditerranée et répartis donc dans les pays de l'Union. C'est ce que révèle un récent sondage IFOP pour Atlantico. Selon vous, les Français sont majoritairement hostiles à l'arrivée des migrants. Quand je dis majoritairement, c'est plus d'un Français sur deux.
À l'abolition de la peine de mort. Si on commence à gouverner avec les sondages, on n'est pas sorti de l'affaire.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pensez que ce sujet va effectivement puissamment peser dans le débat qui arrive,
mais qu'il est politiquement important de le porter. Et je pense que notre interlocuteur a raison de dire qu'il faut avoir aussi un discours positif sur la migration. Il est assez étonnant de voir que le syndicat de l'hôtellerie-restauration est sorti du bois en disant « nous, on a besoin de ces gens », ce qui est toujours un peu ambigu s'agissant d'eux, parce qu'ils ne sont pas toujours hyper réglo sur les conditions sociales de l'emploi de ces personnels.
Ni hyper visible.
Ni hyper visible, oui.
Souvent dans les cuisines.
Précise
les...
Albert Zenou, oui, oui.
Bien sûr, mais on peut être dans la cuisine et être tout à fait un salarié déclaré et qui travaille travail normalement. Là, en l'occurrence, c'est pas toujours le cas. Mais enfin, il y avait dans leurs propos quelque chose qui était tout à fait à contre-courant de ce qu'on entend habituellement.
Xavier Alberti, sur le côté, si je puis dire, non pas utile, mais l'apport positif de l'immigration. L'Allemagne en est un petit peu revenue. Souvenez-vous, ce million de migrants qui aura tant pesé ensuite sur la suite de la marche d'Angela Merkel. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? On a besoin de cet apport humain en Europe?
Le fait qu'on puisse en avoir besoin ou que ça puisse être quelque chose de positif, comme disait Pierre Jacquemin tout à l'heure, dépend effectivement de la façon dont on l'organise. Sinon, ça peut devenir n'importe quoi et ça peut être totalement contre-productif. Donc le fait est que notre continent et notre pays sont des terres de migration. Donc c'est pas nouveau. Encore faut-il qu'on sache effectivement organiser la migration, l'accueillir, faire en sorte que les valeurs centrales de cohésion qui fondent la République soient attachées au cœur de chacun. Voilà, et que la langue, nos valeurs, les valeurs de la République, les valeurs de laïcité, les valeurs de respect soient attachées à chacun. Donc c'est autour de tout ça qu'il faut fonder une immigration, que ce soit une immigration qui soit constructive et positive.
Albert Zénou, l'humanité migre depuis la nuit des temps, ce n'est pas nouveau, c'est toute l'histoire de l'humain depuis toujours.
La vie, c'est le mouvement.
Vous pensez qu'aujourd'hui, les pouvoirs, le pouvoir public, Emmanuel Macron, ceux qui sont en place, ont un discours clair sur cette affaire des migrants?
Emmanuel Macron a tout sauf un discours clair sur l'immigration. Il a commencé, comme on le rappelait tout à l'heure, pendant sa campagne, à dire que ce qu'avait fait Angela Merkel était très bien et qu'il fallait limiter. Et puis arrive au pouvoir, il tient une autre politique. Mais je reviens sur l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui vous avez une immigration de masse qui ne plaît pas aux populations locales, que ce soit les Français, les Italiens, les Allemands, les Autrichiens, les Espagnols, les Belges, les Anglais. Et vous avez une opinion qui est très majoritairement, voire très majoritairement, opposée à l'arrivée en masse de migrants. Alors on peut leur dire que c'est une chance pour la France ou pour tous les autres pays, que la richesse et la multiplication, la diversité, ça peut l'être effectivement. Mais dans la réalité, beaucoup de Français, en ce qui nous concerne, s'aperçoivent que c'est compliqué. Que c'est compliqué dans certains quartiers, c'est compliqué dans certaines villes, c'est compliqué dans certaines classes, c'est compliqué dans certaines entreprises, et ça ne se fait pas comme ça. Et je tiens à rappeler qu'il y a un sondage qui est sorti, 72% d'Italiens soutiennent la politique anti-immigration de Salvini, donc 42% d'électeurs de gauche.
Ouais, Pierre Jacquemin, c'est sans doute d'ailleurs la raison, enfin en tout cas c'est une des questions qu'on devrait se poser, c'est pour quelle raison ce gouvernement est-il arrivé au pouvoir en Italie? Et c'est vrai que l'Europe a une responsabilité immense d'avoir laissé l'Italie seule, la Grèce seule, devoir affronter cette problématique et la problématique, une question en tout cas migratoire, et qu'aujourd'hui la France devrait être moteur justement sur les questions des conditions d'accueil. On attend des politiques qu'ils aient une vision des choses, qu'ils aient un projet visionnaire. On sait que d'ici un siècle, il va y avoir 150 millions d'exilés climatiques. Mais que ne fait-on pas dès maintenant, n'agissons pas maintenant pour engager des investissements pour des centres d'accueil à l'échelle européenne? Ça, nous ne le faisons pas, puisque nous décidons, et d'ailleurs depuis 14 février 2018, comme une lettre d'amour aux migrants, l'Europe a décidé de renforcer les budgets migratoires, les budgets les budgets de la défense et les budgets de contrôle
continuez des frontières. Comme ça, vous donc continuez comme Salvini, ça. Vous aurez encore des.
Justement, non, je ne le crois pas. C'est en anticipant je ne le crois pas. Je pense que c'est en anticipant les choses.
En Norvège,
c'est en anticipant
Finlande,
les choses qu'on y arrive. Suède. Et par ailleurs, je rajoutais une chose. Alors, je parlais de question culturelle, pas de question économique. Il ne faut pas oublier qu'il y a une chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de maires de communes rurales, pas que rurales, d'ailleurs, dans les quartiers populaires aussi, qui accueillent des migrants et qui les accueillent et qui font qu'aujourd'hui, les populations, les quartiers revivent, la campagne revit, les écoles sont sauvées, et que c'est aussi ça, la migration, c'est aussi un échange culturel, c'est aussi du positif dans nos territoires.
Allez, nous allons à 20h17 sur France Info aborder cet autre sujet qui d'ailleurs fait la une du Figaro ce matin avec cette donnée chiffrée incroyable, hein, plus de 40 000 téléphones portables, ça fait frémir, ainsi que toutes sortes d'accessoires, des, des, des,
chargeurs, des cartes SIM saisies l'an dernier dans les 186 prisons de France. La population carcérale, rappelle, c'est 70 000 personnes. Si l'on parle de ce sujet majeur, c'est sans doute après la publication de petits d'images, un petit clip où l'on voit Booba et Caris. D'ailleurs, Booba, d'ailleurs, c'est ce que rappelait Emmanuel Langlois, qui continue de communiquer, ça tombe bien, via Internet depuis sa cellule. Je vous rassure, ils sont pas dans la même cellule.
Mais il a pas communiqué à partir de sa cellule, c'est sa productrice qui a envoyé le tweet.
Il a dû communiquer quand même.
C'est de la communication qui passe par divers canaux, si vous pouvez me le permettre. Alors la transition d'image en détention, c'est quand même monnaie courante. Le gouvernement annonce l'installation de brouilleurs et de 50 000 postes de téléphone fixe. Emmanuel Baudin, secrétaire général de FO Pénitentiaire, dénonce, c'est sur France Info, un coup de com' de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Pour lui, les brouilleurs ne vont pas régler tous les problèmes.
Si l'administration pénitentiaire aujourd'hui communique ses chiffres, parce que les chiffres, ils les communiquent plus depuis bien longtemps, que ce soit sur les portables, les saisies ou sur les agressions, c'est simplement parce qu'ils préparent un coup de com' pour annoncer les brouilleurs de portables qu'ils vont déployer dans les prisons françaises. Mais ce chiffre, on peut le multiplier par deux. Je vous donnais juste un exemple. À Fresnes, ce week-end, c'est 38 portables qui ont été saisis sur un seul établissement. Donc il y a beaucoup plus de téléphones portables qui circulent dans les prisons aujourd'hui. Alors après, le fait de mettre des téléphones individuels dans chaque cellule, penser que ça va compenser les portables, ça, on est complètement à côté de la plaque, parce que les détenus aujourd'hui ont accès à des téléphones en prison. Les téléphones portables, ils servent à aller sur Internet, aller sur les réseaux sociaux, à envoyer des vidéos, à faire des selfies, enfin, tout ce qu'ils ne pourront pas faire avec des téléphones fixes en cellule. Donc forcément, il va y avoir, je pense, une réaction de la population pénale. En plus, ces téléphones portables servent à gérer des tas de trafics. Quand vous voyez le nombre de téléphones portables, on imagine le nombre de quantités de drogue qu'on peut trouver dans les prisons françaises aujourd'hui, puisque si les téléphones rentrent, il faut bien se dire que tout le reste rentre aussi.
Avant le rappel de l'info, premier commentaire avec vous, Albert Zenou, il y a de quoi s'inquiéter?
Forcément. 40 000 téléphones saisis, c'est beaucoup, c'est pratiquement plus d'un sur deux
belle détenus. Flotte, hein.
Oui, belle flotte. Alors, est-ce qu'on y arrivera certainement pas à juguler cette inflation, puisque les brouilleurs ne sont pas effectifs. Aujourd'hui, il y a 10% des brouilleurs qui sont installés, qui sont effectifs, qui sont opérationnels. 90% ne marchent plus, puisque les technologies ont avancé.
Les contrats nouveaux sont évolutifs, qui permettent de s'adapter à l'évolution technologique. Mmh. C'est ce que disent d'ailleurs les syndicats de la pénitentiaire. C'est plutôt pas mal. Mmh. Ça va à peu près fonctionner, mais il faut effectivement mettre à jour à chaque fois, oui.
Ce sera dommage pour les gardiens, puisque eux-mêmes seront brouillés. Ça va être compliqué. D'autant que souvent, les téléphones portables sont aussi un moyen pour les gardiens de maintenir une certaine paix à l'intérieur. On sait très bien que certains gardiens tournent le dos quand ils voient certains portables, parce que ça maintient une population qui est par essence en ébullition, dans une espèce de paix des braves.
Allez, vous allez réagir autour de la table sur cette affaire des portables en prison après à 20h20 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Emmanuel Langlois.
Après le nouvel appel du pape à se mobiliser contre la pédophilie hier au sein de l'église, un prêtre de Valence dans la Drôme réclame la démission du cardinal Philippe Barbarin à travers une pétition lancée sur Internet. L'archevêque de Lyon est poursuivi pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Un bébé d'un an retrouvé dans le TER entre Tours et Vendôme. Sa mère l'avait confié à un passager le temps d'une course, mais elle a raté le train. C'est finalement à Château-Renaud qu'elle est venue récupérer le bébé en taxi. Hawaï, placée en alerte à cause de l'avancée du puissant ouragan Lane, la dépression est passée en catégorie 4. Elle devrait toucher l'archipel américain dans les 48 heures qui viennent. Les forces de sécurité afghanes ont mis fin à une spectaculaire attaque de plus de 6 heures dans Kaboul aujourd'hui. 30 obus de mortier tirés de deux endroits distincts. 6 personnes et 2 assaillants ont été tués. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Et puis près de 2 400 000 fidèles en pèlerinage à la Mecque. Ils ont débuté le rituel de la lapidation de Satan au premier jour de l'Aïd, la fête du sacrifice célébrée par les musulmans à travers le monde. En France, plus de 100 000 moutons seront sacrifiés en 3 jours.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Sybille Vincent, donc, comme le suggérait Albert Zenou à l'instant, si l'on supprime ces 40 000 portables en prison, les centres de détention vont devenir, enfin les prisons françaises, des cocottes minutes.
Alors on nous vend, si j'ose dire, que la baisse du prix des communications par le fixe est quand même un argument pour que les détenus s'en servent, puisque actuellement, quand on est en prison, on paye tout plus cher. Ça fait partie aussi de la peine. Et donc, actuellement, si vous utilisez le téléphone fixe qui vous est proposé pour communiquer avec votre famille, il y a des détenus qui disent que ça leur coûte 150 euros par mois. Vu ce qu'ils gagnent en travaillant en prison, ça fait beaucoup d'argent. Mais là, l'argument, c'est oui, mais le fixe va être moins cher. Mais évidemment que le portable va continuer à circuler autant que possible, ne serait-ce que parce que les opérateurs de téléphonie vous le diront, la voix c'est devenu accessoire dans le téléphone.
Oui, c'est ça.
Ça sert à faire beaucoup, beaucoup d'autres choses.
Xavier Alberti, la prison devient une machine à fabriquer de la délinquance, des problèmes. C'est difficile de considérer la pénitentiaire comme quelque chose, comme un aboutissement de la chaîne au fond judiciaire.
Je crois que le sujet, c'est vraiment la politique pénale dans sa généralité qu'il faut regarder. Parce que le téléphone, c'est un épiphénomène. Ouais. Il y a le sujet de la drogue en prison, il y a le sujet de la violence.
Responsable tout à l'heure de FO,
la violence en prison, il y a le sujet de la salubrité, on vient de passer un été caniculaire.
Et de la surpopulation.
Et donc, on arrive effectivement au sujet de la surpopulation. Et il va quand même falloir qu'à un moment donné, on se repose la question de savoir à quoi sert la prison, quelle peine, pour quel objectif.
On se la pose depuis toujours,
cette question. Oui, mais sauf qu'il faudrait y répondre, puisque l'idée de poser plusieurs fois la question, c'est de trouver un jour la bonne réponse. Et du fait des évolutions sociales également, de revoir, je crois que c'est 20% des détenus qui sont en prison pour des délits liés à la drogue. Il y a aussi un sujet sur les aménagements de peine, sur qui doit y aller. Et dès lors qu'on retrouverait une population carcérale qui soit contrôlable, on aura probablement moins de téléphones, moins de drogue, moins de violence et des conditions de détention qui permettront de sortir de prison pour faire quelque chose et pas forcément pour y revenir.
Et Pierre Jacquemin, Emmanuel Macron avait promis 15 places de prison supplémentaires. Il n'y en aura que 7000 au final pendant le quinquennat. Il faut soulager les prisons.
Oui, et j'ai l'impression qu'on prend par le petit bout de la lorgnette en découvrant aujourd'hui qu'effectivement, il y a ces téléphones portables qui passent dans les prisons, alors même qu'il y a encore quelques semaines, on découvrait qu'on pouvait venir avec un hélicoptère chercher un détenu et repartir sans qu'on nous suive à la trace et que le détenu puisse vivre sa vie. Exactement, Redouane Faïd. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, rien n'est étonnant. Et en début d'année, je me rappelle quand même de cette grande mobilisation du personnel de la pénitentiaire qui rappelait les conditions de travail. C'est à la fois les conditions de vie des détenus au quotidien, ce à quoi ils n'ont pas accès, comment on leur rend le quotidien quand même un peu facile, parce que je suis désolé, quand même, dans une prison, on paye sa peine, mais on a le droit de vivre convenablement, et je crois que la France a été suffisamment condamnée par des instances européennes là-dessus. Et puis, il y a les conditions de travail du personnel. Et là aussi, je crois que cette affaire de téléphone fixe, c'est aussi du personnel supplémentaire en besoin, parce qu'il faut accompagner les détenus, il faut les surveiller, il faut les accompagner. Donc, ça ne règle pas le problème, ces histoires de téléphone. Plus généralement, encore une fois, cette question, c'est la question qu'évoquait Xavier, c'est la question des conditions de vie dans la prison et la question des moyens qui sont donnés au personnel pour pouvoir faire en sorte que l'environnement pénitentiaire soit le plus sécure possible. Et surtout, encore une fois, c'est aussi non pas un projet avec une vision de ce que doit être le milieu carcéral que nous propose Emmanuel Macron, c'est évidemment une question éminemment budgétaire.
Comptable.
Qui l'amène aujourd'hui à, effectivement, à non pas penser à un système carcéral qui serait différent, mais surtout à supprimer des économies, enfin en tout cas faire baisser les dépenses de ce milieu carcéral.
Albert Zenou, la pénitentiaire, ceux qui y travaillent, ce sont des salaires de misère et souvent des personnels démunis face à des caïds, face à des phénomènes de trafic en tout genre, de radicalisation en prison. Est-ce qu'il n'y a pas un petit souci de mise à niveau des personnels même de la pénitentiaire?
Sans doute qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais je tiens à rappeler quand même que la prison, c'est un lieu de privation de liberté.
Oui, mais ça, comme disait Badinter, uniquement de privation de liberté.
Donc c'est vrai, mais il faut quand même le rappeler. Donc on a affaire à des gens qui ont contrevenu aux lois de la République. Hein, donc la surpopulation, qui est l'un des fléaux et d'un problème majeur de la pénitentiaire en France, elle se règle par deux problèmes. Soit on construit plus de prisons, soit on empêche les gens d'y entrer. C'est ce qu'avait fait un peu Madame Taubira. Enfin, en France, on a un taux de non-exécution des peines qui est assez important. Un programme de construction de prisons a été annulé par François Hollande quand il est arrivé au pouvoir. Est-ce que la question ne se résoudrait pas par de nouveaux établissements qui ont l'avantage d'être plus récents, mieux équipés et
je
avec.
Je voudrais qu'on m'explique comment avec le programme de construction de pénitentiaires qui avait commencé, d'établissements pénitentiaires qui avait commencé sous Raffarin, c'est les premiers qui ont été faits faire du partenariat public-privé pour construire des prisons. Donc on a augmenté le nombre de places de prison et pourtant on a toujours de la surpopulation. Toujours. Donc j'ai l'impression que c'est la fuite en avant et que plus vous mettrez à disposition des places de prison, plus les juges enverront facilement beaucoup de gens en prison. Or, il y a quand même des solutions alternatives et le bracelet électronique n'est pas la moindre de ces solutions. C'est très astreignant quand même. Hein.
D'autant, alors, que ça demande... raison, et d'autant que la réforme de la justice risque justement d'augmenter le nombre de délits qui conduisent à la prison. Et ça, c'est aussi un sujet de surpopulation carcérale. Et c'est comment justement la problématique carcérale, elle est prise par un bout qui n'est pas le bon, qui n'est pas celui qu'attendent les personnels de la pénitentiaire.
Allez, fin de la première demi-heure des informés. Nous évoquerons dans un instant la réforme de notre système de santé et surtout la rentrée budgétaire d'Emmanuel Macron et celle de La République En Marche sont un petit peu absents du paysage. Ce sera après la météo et les infos.
Ça va ma chérie? Tu t'en sors avec tous tes dossiers pour la rentrée?
Moi, vu le nombre de documents à imprimer, ça va me coûter une fortune en encre.
Mais non, fais comme nous. Avec ton père, on a pris un abonnement HP Instant Ink.
Maman, j'ai pas de sous pour ces trucs-là.
Mais c'est gratuit. Avec HP Instant Ink, tu te fais livrer tes cartouches à domicile et tu peux imprimer gratuitement jusqu'à 15 pages par mois.
Gratuitement?
Je viens de te le dire.
Ah ouais, toi et papa, c'est Huggy les bons tuyaux, en fait.
Avec HP Instant Ink et les imprimantes HP, imprimer gratuitement jusqu'à 15 pages par mois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/instantink.
France Info Météo avec Calipage, toute la papeterie et toutes les fournitures scolaires. Votre succès commence par Calipage.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Encore un peu plus estival demain avec des températures en hausse, 14 à 18 degrés au nord le matin, 17 à 21 au sud et même 21 à 25 degrés autour de la Méditerranée. L'après-midi, 22 degrés du côté de Cabourg, 27 à Lille, 31 degrés à Paris, 32 à Tours, 34 à Mulhouse, Lyon, Limoges et Marseille, 35 degrés à Bordeaux et Montauban. Côté ciel, beaucoup de soleil, un peu de grisaille, des landes au Gers, mais ce sera juste le matin. Sur les régions voisines de la Manche, du gris le matin, pourquoi pas un peu de brouillard. Ça s'arrangera l'après-midi, retour d'éclaircies bien appréciables. Et puis de l'arrière-pays méditerranéen vers le massif central et Rhône-Alpes. Là, ça tournera à l'orage l'après-midi, des orages parfois forts avec de bonnes quantités de pluie.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30, toute l'info avec vous, Emmanuel Langlois.
C'est le chiffre du jour, plus de 40 000 portables saisis l'an dernier dans les prisons françaises, peut-être le double d'après les syndicats pénitentiaires, c'est 7 000 de plus qu'un an plus tôt en tout cas. La chancellerie lance deux grands chantiers pour y faire face, le brouillage des communications mobiles dans les prisons et l'installation de 50 000 téléphones fixes dans les cellules. Et puisqu'on parle de téléphone, quand je serai grand, je voudrais être Benalla ou moine pédophile. Provocation signée Booba, elle a été envoyée sur Twitter depuis sa cellule mais via sa manager. Manière pour le rappeur de dénoncer la peine qu'il encourt ainsi que sa détention pour sa bagarre avec Caris à l'aéroport d'Orly le 1er août dernier. Orly, où un adolescent est mort ce matin dans un accident de scooter alors qu'il fuyait la police. C'était lors d'un rodéo avec deux autres deux roues. L'accident a eu lieu sur une route proche de l'aéroport. Il n'y a pas eu de course-poursuite d'après le parquet de Créteil. Entre la baisse des dotations, la suppression de la taxe d'habitation, la fermeture des services publics ou encore la limitation à 80 km/h, les motifs de friction entre les collectivités et le chef de l'État sont nombreux. Paru au début du mois, une enquête à l'Arthès sur le nombre de démissions chez les maires, elle explose. Plus 55% par rapport à la précédente mandature, car les élus se sentent aujourd'hui délaissés par l'État, notamment dans les régions les plus rurales. Julie Paco s'est ainsi rendue pour France Info dans les Cévennes, au sud de la Lozère, à Saint-Martin-de-Boubeau, commune de 180 habitants.
La commune domine la vallée du Galaison, ses pins et ses châtaigniers à perte de vue. Jean-François Vialaille a repris depuis 3 ans la gérance du seul commerce, à la fois bar, restaurant et épicerie. Si le cadre est idyllique, le quotidien l'est un peu moins.
Oh ben nous, on se sent oublié ici. Dès qu'il y a un moindre problème avec un orage, que ce soit sur Internet ou sur le courant électrique, ce n'est jamais réparé dans l'immédiat.
Depuis le 31 mai dernier, suite à un orage, le bureau de poste a ainsi fermé ses portes faute de connexion Internet. Une situation inadmissible pour Alain Louche, le maire communiste de Saint-Martin-de-Boubeau.
Le guichet ne fonctionne plus depuis cette date-là. Et je suis intimement convaincu qu'on se soucie très peu du fonctionnement de ce service sur notre commune.
Or, ces services publics sont indispensables pour maintenir la vie économique des villages, observe Gérard Lamy, le maire de Saint-Germain-de-Calberte, une commune voisine plus touristique.
Nous avons des chambres d'hôtes, l'épicier qui fait une recette, c'est important de pouvoir déposer la recette régulièrement. Pour nous, avoir de l'argent liquide, avoir la possibilité de le retirer, de le déposer, c'est faire tourner tout le commerce.
Cet élu s'inquiète d'un retour en arrière de l'État qui, selon lui, contrôle et recentralise au lieu d'être dans une relation constructive avec ses collectivités.
Un reportage de Julie Paco. La réforme du système de santé, elle sera présentée à la mi-septembre par le gouvernement, annonce d'Agnès Buzyn sur France Info. Elle ne prévoit pas, dit-elle, aucune fermeture d'hôpital de proximité. Pour la coordination nationale des hôpitaux, la ministre de la Santé joue sur les mots, ne ferme pas d'hôpital, mais bien des services. Et puis Danny Boyle ne réalisera pas, comme prévu, le prochain James Bond. Le metteur en scène britannique a quitté le projet en raison de différents artistiques. On n'en sait pas plus ce soir. D'après les producteurs du futur épisode des aventures du célèbre espion.
20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Merci à vous Emmanuel Langlois. La deuxième partie des informés sur France Info avec nos invités Sybille Vincent-Don, rédactrice en chef adjointe à Libération, avec Albert Zenou, rédacteur en chef au service politique du Figaro, Xavier Alberti, entrepreneur engagé, membre fondateur de Jamais Sans Elle et président de la Transition, Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Alors c'est une réforme très attendue que le gouvernement va présenter à la rentrée, on va en dire quelques mots. Celle du système de santé, ce sera à la mi-septembre, comme l'a confirmé Agnès Buzyn sur France Info ce matin. La ministre de la Santé, au micro de Jean-Jérôme Bertolus, a assuré qu'il n'y aurait aucune fermeture de services d'urgence de proximité.
Il y aura évidemment une organisation qui permette aux médecins en ville d'être présents plus qu'aujourd'hui sur les périodes de garde, parce que effectivement tous nos services d'urgence réceptionnent énormément de malades qui n'ont pas besoin d'aller aux urgences. Et donc on peut indéfiniment augmenter les nombres de services d'urgence ou le médecin urgentiste, mais on n'a pas besoin d'un médecin urgentiste.
C'est pas ce que vous souhaitez d'ailleurs.
Je vais juste terminer. Ouais. On n'a pas besoin d'un médecin urgentiste pour soigner par exemple une cheville foulée.
Précisément, vous souhaitez revoir la carte territoriale de la médecine d'urgence. Vous parlez de médecine de proximité. Vous allez fermer des services d'urgence de proximité dans les zones rurales, alors, une fois de plus.
Là, il y a un mythe autour des fermetures des services d'urgence. Il y a parfois des services d'urgence qui ferment, mais il faut savoir que globalement, nous avons 78 services d'urgence qui ont ouvert en plus ces dernières années.
Sybille Vincent-Don, de ce que l'on en sait, c'est un peu tôt, mais apparemment pas grand-chose ne va changer, ou c'est une question, hein.
Moi, je serais très curieuse de voir comment elle arrive à ne faire aucune fermeture, vu leur conjoncture budgétaire, ça me paraît très très étonnant. Et l'autre chose importante, c'est de savoir ce qu'ils vont faire sur le paiement à l'acte, sur la fin du paiement à l'acte, qui est horriblement, qui est véritablement un système pervers. Et là-dessus, elle ne nous dit pas grand-chose. Quand elle dit que les médecins libéraux feront le service de l'urgence d'une manière ou d'une autre, je crains qu'elle n'ait pas beaucoup entendu la position des médecins libéraux d'une manière générale, qui ont plutôt tendance à se dégager de ça pour avoir aussi une vie normale, des horaires normaux, toutes choses qui sont compréhensibles. Ouais. Mais effectivement, c'est ça que les services d'urgence pallient en permanence.
Je vous sens sceptique ce soir, là-dessus.
Très sceptique là-dessus, oui. Je pense que c'est extrêmement difficile de marcher dedans.
Xavier Alberti, les services des urgences des hôpitaux sont au bord de la rupture, mais j'ai l'impression qu'on répète ça depuis, là encore, des décennies, que la situation ne fait qu'empirer. Les hôpitaux ne sont pas des entreprises, mais est-ce qu'ils ne devraient pas être gérés de façon un petit peu différente?
En tout cas, il y a la même problématique, c'est celle de la ressource et de l'emploi. C'est-à-dire que soit on augmente les ressources et on peut accompagner la croissance des emplois, des coûts, soit on n'augmente pas les ressources et puis ça devient plus compliqué. Et dès lors qu'on reste sur le même plan de réponse, c'est un peu comme les prisons tout à l'heure, c'est-à-dire si on change pas à un moment donné un élément clé de l'équation, on peut jamais s'en sortir. Et quand Agnès Buzyn dit on fermera pas d'hôpitaux, elle dit pas on fermera pas de services. Parce qu'on peut fermer des services à l'intérieur d'hôpitaux qu'on laisse ouverts.
Hein. C'est la subtilité. Donc,
le sujet, c'est que... Mais en revanche, elle aborde, par exemple, un vrai problème, qui est celui des raisons pour lesquelles on se rend aux urgences. Il y a probablement d'autres formes de médicalisation, de contrôles médicaux qu'il faut mettre en place à travers les téléconsultations, par exemple. De la même manière qu'on parlait tout à l'heure sur la politique carcérale des bracelets électroniques, il faut trouver de nouvelles formes pour accompagner ces services publics-là, parce que on est dans une équation impossible où globalement tout le monde dit on veut payer moins d'impôts ou de taxes ou de tout ce qui va avec, mais de l'autre côté on veut des services publics qui continuent à croître et à s'améliorer, et il y a un facteur X qui fait que c'est impossible, sauf si on repense les moyens d'organiser ces politiques publiques-là. Et pour l'instant, j'ai un peu l'impression qu'on essaye de mettre des rustines sur un système qui ne fonctionne pas plutôt que de réinventer et d'aller chercher de nouveaux modèles.
Pierre Jacquemin, la santé publique, l'hôpital public, c'est un système aujourd'hui menacé selon vous ?
C'est un système qu'il faut revoir de fond en comble. Et vous avez raison de pointer du doigt la question des modes de gestion des hôpitaux. C'est que c'est pas vrai que dans les hôpitaux, pardon, c'est vrai dans tous les établissements publics. On a souvent tendance à ne plus nommer des responsables qui ont connaissance de la matière, c'est-à-dire des médecins, des infirmiers ou des infirmières à la tête des hôpitaux. On nomme des gestionnaires, des gens qui sont là pour faire rentrer les cases des chiffres qu'on leur donne depuis le ministère de la Santé. Mais moi, quand j'écoute la ministre de la Santé, elle nous dit s'il y a trop d'entrées dans les urgences, c'est parce que les gens ne savent pas très bien où aller, c'est un peu de leur faute, il faut apprendre à les responsabiliser. Et c'est aussi ça le discours d'Emmanuel Macron et de la Macronie d'une manière générale, ou en tout cas de la pensée macronienne, c'est cette responsabilisation. On sait qu'Emmanuel Macron est un homme libéral, un libéral certes autoritaire, mais c'est un libéral sur les questions économiques. Et donc du coup, il faut responsabiliser l'individu, et y compris en matière de santé. C'est pour ça que moi je suis très inquiet sur ce qui nous attend sur la question économique, sur la question notamment de la santé, et aussi sur la question du plan pauvreté qui n'est pas si éloigné que ça, parce que c'est aussi cette forme de responsabilisation. On est au chômage parce qu'on envie d'être au chômage et on doit s'en sortir par soi-même. C'est aussi cette place que l'on met à l'individu en permanence par cette politique qui est un problème. Et cette mise en cause de la sécurité sociale aussi, parce que c'est aussi, on a entendu la ministre évoquer l'idée que peut-être les entreprises seraient amenées à contribuer au financement des congés maladie. Et donc ça, c'est aussi une remise en cause du principe de solidarité générale. Donc il faut que la ministre aujourd'hui écoute. C'est un des problèmes aussi de ce gouvernement, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment à l'écoute des demandes. Moi, j'entends, je lis aussi beaucoup, de plus en plus, de remontées d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignantes qui nous expliquent combien c'est plus vivable dans un hôpital, c'est plus vivable. Dans les EHPAD, c'est pareil, c'est devenu des... Et c'est, pas... c'est faux de dire
pas
que le problème...
Pas vous dites.
Ah, oui, pas assez d'écoute, pas assez de moyens.
Albert Zenou, l'État, qui, on va en parler dans un instant, qui veut tailler dans les budgets des ministères, il ne peut pas toucher à la santé, c'est pas possible.
Ça va être difficile. En tous les cas, il ne peut pas l'annoncer. C'est pour ça que Agnès Buzyn reste très, très évasive dans ses réponses.
Oui, c'est très flou.
C'est toujours très flou. De toute façon, quand on parle d'économie, c'est toujours très flou. D'une manière générale. Mais je reviens au problème. Aujourd'hui, il y a une habitude des patients, des Français, à aller tout de suite à l'hôpital quand on a le moindre bout. Parce que c'est gratuit, parce que c'est comme ça.
Non,
parce que,
c'est général.
Non, non,
dire
mais
ça.
Moi, alors, pour être.
Ça dépend totalement des quartiers. Quand vous allez en Seine-Saint-Denis et que vous avez un sous-équipement, c'est un désert médical, la Seine-Saint-Denis.
Oui,
mais. Donc, les gens, ils vont là où ils trouvent un médecin.
On va revenir au problème initial. C'est vrai que les médecins quittent la Seine-Saint-Denis aussi. C'est aussi très difficile. Il faut écouter aussi les médecins. Moi, j'en ai beaucoup dans ma famille, dans mes amis. C'est très dur. Il y a une colère de profession médicale. Alors souvent, on veut la nier parce que ce sont des professions plutôt et des personnes plutôt privilégiées. Donc c'est pas bien d'être en colère quand on gagne correctement sa vie et encore de moins en moins. Mais il y a une vraie colère. C'est très compliqué. La médecine aujourd'hui, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de tâches administratives. La sécurité sociale avec il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à revoir. Donc vous avez tout ça fait que cet ensemble, ce secteur pose un vrai 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 problème.
Allez, 20h41 minutes sur France Info, le rappel de l'info avec vous Emmanuel Langlois.
Après deux semaines et demie de vacances, Emmanuel Macron a quitté le fort de Brégançon à Bormes-les-Mimosas pour regagner Paris. Le chef de l'État assistera demain mercredi au premier conseil des ministres de rentrée. Tous les moyens de l'État sont mobilisés pour obtenir la libération de Sophie Petrona. La réponse de l'Élysée aujourd'hui après le nouvel appel lancé par la famille de l'otage. La Française est détenue depuis fin 2016 au Mali par un groupe proche d'Al-Qaïda. Près d'une semaine après avoir été secourus, 170 migrants sont toujours bloqués en mer sur un navire au large de Catane en Sicile. avec interdiction de débarquer. Les autorités italiennes menacent en effet et à nouveau de les renvoyer en Libye si aucune solution à l'échelle européenne n'est trouvée pour les accueillir. Asia Argento contre-attaque. L'actrice italienne nie toute relation sexuelle avec Jimmy Bennett. La comédienne est l'une des principales accusatrices du producteur déchu Harvey Weinstein. Elle est depuis hier elle-même accusée dans un article du New York Times d'avoir agressé sexuellement le jeune acteur, ce qu'elle dément ce soir. Et puis l'Iran qui dévoile son premier avion de combat de fabrication 100% locale. Téhéran affirme que ses capacités militaires sont uniquement dissuasives en pleine tension avec les États-Unis sur le dossier du nucléaire iranien.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et voilà, fini Brégançon. La rentrée s'annonce très sociale demain pour Emmanuel Macron. On a évoqué la réforme du système de santé. Il y aura également le plan pauvreté et tant d'autres sujets sur la table. Et puis il y a le budget 2019. Avec un cran de plus à la ceinture pour bon nombre de ministères, alors que la croissance, eh bien oui, n'est pas au rendez-vous et que la courbe du chômage ne s'inverse pas. Non, c'est pas question de François Hollande, c'est Emmanuel Macron. Le premier des conseils des ministres annonce un petit peu compliqué. Le gouvernement peut-il tenir son objectif de déficit budgétaire? Mais qu'est-ce qui s'y colle? Allez, Xavier Alberti, on commence par vous. C'est une équation impossible ou pas?
C'est toujours une équation impossible quand un des facteurs n'est pas maîtrisé. Et il y a un facteur dans cette équation dont vous avez parlé, c'est celui de la croissance. Et celui-là, il n'est pas maîtrisé. Il n'est pas maîtrisable. Personne ne connaît la croissance, personne ne la maîtrise. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans le fait que un modèle en croissance fonctionne ou ne fonctionne pas. Et il y a, en dehors de ça, un autre facteur qui est important et qui est aujourd'hui pas activé, c'est celui de l'économie et des économies de l'appareil d'État. Il y a un rapport qui s'appelle Cap 2022 qui a été rendu, qui permet très d'économiser 30 milliards d'euros. Je sais pas très bien où il en est. J'ai l'impression qu'il est passé sous un bureau. Il sert à caler une armoire pour l'instant.
Il est quelque part.
C'est comme pour n'importe. Alors, on va pas comparer ce qui est pas comparable. On va pas comparer l'État à un ménage. Mais enfin, un ménage quand il a moins d'entrées, il fait des économies.
Dépense moins.
Le problème, c'est que l'État, lui, ne fait pas ça, ne fait plus ça. Et faire des économies, encore une fois, c'est pas forcément réduire les moyens. Ça peut être les allouer différemment. Et surtout, ça peut être surtout dans la période qu'on vit, c'est celle où on se réapproprie des nouveaux moyens technologiques, c'est revoir nos modes de fonctionnement et trouver de nouveaux modèles qui nous permettent non pas de réduire la voilure, mais de redistribuer et de partager les ressources, les moyens, les services différemment.
Sybille Vincent, dans quoi est-ce qu'il peut tailler ce gouvernement ?
C'est une question que je me pose, mais d'abord, je pense qu'il a besoin, ce gouvernement, de savoir s'ils sont d'accord sur les chiffres. C'est-à-dire que les prévisions de croissance que fait le gouvernement, l'INSEE et la Cour des comptes leur disent « Non, ça c'est faux, ça c'est surestimé. »
C'est le fameux 1,8.
Et l'INSEE et 7. La Cour des comptes disent « Ne comptez pas là-dessus, vous n'y arriverez pas. » Donc, ça a l'air de rien, mais effectivement, ce 0,1 point,
ça change
énormément de choses. Donc, à partir du moment où ils ont une obligation de faire des dépenses un peu importantes en termes de défense, de sécurité intérieure, on a eu des attentats, tout ça, on ne discute pas. Ils ont une obligation de répondre aux engagements qu'il a pris sur l'éducation. Et c'est vrai que quand on voit les résultats des classes dédoublées, sont des résultats bien meilleurs. Mais une classe dédoublée, ça coûte de l'argent.
Soit
ça
coûte plus d'effectifs, plus de moyens.
Ça coûte un institut de plus, d'une manière ou d'une autre.
Quoi qu'il arrive.
Voilà, quoi qu'il arrive. Donc, je ne vois pas comment on arrive. Alors, certes, il y a les nouvelles technologies. On sait, par exemple, que les gens, maintenant, ils vont déclarer ils vont faire leur déclaration en ligne. C'est autant de paperasse en moins, autant de gens en moins pour les manipuler.
Ça ne marche pas toujours. Pour les cartes grises, ce n'est pas au top.
Non, les cartes grises ne sont pas au top. Il y a une série de choses qui ne sont pas au top. Et puis, il y a une partie de la population qui a besoin d'être aidée. Donc, il faut budgéter de l'humain pour des gens qui, de toute façon, ne le feront pas sur Internet, ne passeront pas par là. Donc, les nouvelles technologies, c'est pas tout. Quand on parlait de la santé tout à l'heure, certes, la télémédecine, c'est intéressant, mais pour les urgences, c'est inutile. La médecine reste un exercice physique.
Physique, oui, en présence.
Donc, présence et de palpation et de soins et de réparation au sens véritablement technique et physique du terme.
Donc, pour vous, l'objectif paraît inatteignable.
Je ne sais pas. J'aimerais, quand j'entends Xavier Alberti parler du plan, je voudrais qu'il me donne un exemple où on gagne beaucoup d'argent en changeant la manière de faire.
Je me garderais bien de donner des exemples précis, puisque par nature c'est flou. Les vraies économies, c'est sur la masse salariale en général. C'est pas tant sur les, enfin un peu sur les investissements, c'est sur la masse salariale. Alors après, c'est
qu'est-ce que c'est choisit... baisser le salaire des fonctionnaires comme c'était
ça,
le cas
ça, on
en Grèce
pas, et heureusement. Non, c'est réduire le nombre de fonctionnaires.
Attendez, il y a le chiffre, c'est 120 000 sur 5 ans, oui. Dont 50 000 de l'État. C'est-à-dire 70 000 des collectivités territoriales, et seules ces collectivités-là peuvent décider de les sortir ou pas. Donc,
oui,
c'est
puis,
50 000.
Et puis,
en fait.
L'État a beau jeu de reporter les économies sur les collectivités locales, alors même que l'État transfère des compétences, pas toujours avec les fonds nécessaires, sur les collectivités locales. Donc, c'est un peu facile. Alors après, est-ce que c'est possible? Moi, je pense que. Il faut tendre vers ça. De toute façon, il faut arriver. C'est le point clé de la réussite de l'économie française, c'est la réduction des dépenses.
Alors les présidents ont dit qu'ils allaient s'y attaquer.
La réduction des dépenses, le corollaire, c'est la réduction de la pression fiscale. Aujourd'hui, on est quand même en France, le pays qui a la pression fiscale la plus forte. Et sur les entreprises et sur les particuliers, pratiquement. On est au deuxième, je crois, sur les particuliers. Donc, cette pression, elle est trop forte. Il faut la réduire. Et pour la réduire, il faut réduire les dépenses. Après, il y a des.
Comment on ne réduira pas les services, et encore moins dans une société qui se complexifie et qui a des besoins plus importants que dans les années 50, les services passeront aux mains du privé. Après,
Il y a certaines choses. Quand c'est Paris gagnant, il n'y a pas de raison que le privé.
Pierre Jacquemin, comment est-ce qu'on ne réagira pas, moins bien
administré que la France.
Oui. Vous demandiez à Sylvie Vincent-Don dans quoi il fallait tailler, mais pourquoi tailler ?
Comment est-ce que vous faites maigrir la bête ?
Et pourquoi la faire maigrir ? Pourquoi ne pas penser différemment ? Pourquoi toujours mener ces mêmes politiques que l'on vit depuis 20, 30, 40 ans sans avoir un objectif ? L'objectif de ces politiques, c'est uniquement, vous l'aviez dit tout à l'heure, il a été utilisé le terme, c'est un objectif comptable budgétaire. Il n'y a pas de projet politique derrière. C'est quoi le projet politique derrière des dépenses en moins ou des suppression d'effectifs. C'est quoi le projet politique ? Dans quel monde on veut vivre ? Dans quelle société veut-on vivre ? L'Europe court à l'échec parce qu'on mène ses politiques depuis 30 ans. Et aujourd'hui, on continue à nous expliquer qu'il faut couper encore plus dans les budgets et encore plus supprimer des effectifs. Il est là le problème. Et tant qu'on ne sait pas dire les choses en positif et tant qu'on ne sait pas projeter un projet, et ça suffit de dire que c'est à cause des pauvres qu'on souffre aujourd'hui d'un problème en Europe et que c'est à cause des migrants si l'Europe a un problème et que c'est à cause des chômeurs si aujourd'hui on vit un véritable problème en France. Le problème, il n'est pas là. On ne sait pas utiliser l'endettement. On ne sait pas prévoir. Je crois que c'est au Japon, on est à 200% d'endettement du PIB. L'endettement, c'est un pari sur l'avenir, c'est une richesse, c'est aussi des écoles, c'est des hôpitaux,
c'est du service public. Pour l'instant, c'est de la dette. Si vous laissez la dette à vos enfants, vos petits-enfants,
regardez ce qui se passe au Portugal en ce moment. Certes, ce n'est pas l'exemple le plus parfait, mais quand même, ils ont injecté de l'argent. Ils ont augmenté les minima sociaux. Ils ont augmenté les salaires. Ils ont réduit le chômage en quelques années seulement de 11,1% à 7,9% aujourd'hui. Il va passer à 7% l'année prochaine. La croissance est de retour. Prenons exemple, essayons de mener des politiques qui ne sont pas les politiques que nous impose l'Union européenne. Et pourtant l'Europe est nécessaire, mais faisons rêver les gens sur une Europe qui porte les gens, qui harmonise davantage, qui soit plus solidaire. Arrêtons ces politiques où il faut couper les budgets, couper les effectifs. Que faisons-nous de nos services publics ? Que faisons-nous et quelle politique nous voulons et quelle vie nous voulons demain à l'échelle européenne ?
Si la France a la protection sociale du Portugal, je crois que vous ne seriez pas très content.
Aujourd'hui, ce à quoi ressemble le code du travail au Portugal, je pense qu'il y a de quoi donner des idées à la France en termes de sécurisation des parcours professionnels, par exemple.
Mais Lisbonne est une capitale magnifique. 20h50 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Emmanuel Langlois.
Après le nouvel appel du pape hier à se mobiliser contre la pédophilie au sein de l'Église, un prêtre de Valence dans la Drôme réclame, lui, la démission du cardinal Philippe Barbarin à travers une pétition lancée sur Internet. L'archevêque de Lyon est poursuivi pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Toujours plus de portables en prison. 40 000 saisis l'an dernier, c'est 7 000 de plus qu'un an plus tôt. La chancellerie annonce la mise en place de dispositifs pour le brouillage des communications mobiles et l'installation de 50 000 téléphones fixes dans les cellules des prisons françaises. Aux États-Unis, des détenus se mettent en grève dans les prisons américaines à l'appel d'associations qui militent pour une amélioration de la vie des prisonniers et la fin de l'esclavage en prison. Fin de citation. Les forces de sécurité afghanes ont-elles mis fin à une spectaculaire attaque de plus de 6 heures? C'était dans Kaboul, 30 obus de mortier tirés de deux endroits distincts. 6 personnes et 2 assaillants ont été tués, attaque revendiquée par le groupe État islamique. Et puis près de 2 400 000 fidèles en pèlerinage à la Mecque. Ils ont débuté le rituel de la lapidation de Satan au premier jour de l'Aïd, la fête du sacrifice. En France, plus de 100 000 moutons seront sacrifiés en 3 jours.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors nous refermons ces informés sur une immense frustration, Sybille Vincendon. Le Libé en parle ce matin, hein. L'absence de La République En Marche pour une belle rentrée politique, pas de grand meeting populaire, pas d'université d'été, qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que je pense que Emmanuel Macron et le gouvernement n'ont pas tellement envie d'entendre ce qui remonte du pauvre terrain de La République En Marche, qui n'a pas beaucoup d'élus locaux, mais qui a quand même des oreilles et qui entend des choses désagréables. Et c'est vrai que si vous regroupez tous ces gens dans une sympathique ville balnéaire et que tout d'un coup...
Vous pensez que ça va mal finir, parole,
ben, je pense surtout qu'il... Là, c'est la parenthèse enchantée pour Emmanuel Macron. Il n'a pas encore d'élus locaux. Et de fait, si il devait faire 2 conventions par an, ils n'en ont fait qu'une seule pour nommer leur chef.
C'est en octobre, c'est ouais, novembre, c'est... je crois. Oui, enfin, c'est quelques mois déjà. Voilà.
Et ouais. Donc, les voilà bien tranquilles pour le moment, puisque la base peut couiner. Elle ne couine pas en cœur. Mais si, de fait, il y avait une sorte d'université d'été, et si, par bonheur pour eux, ils ont des élus locaux, il va bien falloir commencer à entendre ce que dit le pays profond.
Xavier Alberti, vous qui prenez une transition, non pas énergétique, mais politique, vous êtes frustré de cette absence de au fond, d'affichage de fin d'été de La République En Marche?
Non, parce que finalement, c'est un rendez-vous autoproclamé par quelques vieux partis. Donc, qu'il y ait des universités l'été ou pas, franchement, on s'en fout un peu. Ce qui est plus embêtant, c'est de ne pas avoir de projet politique, de ne pas avoir de ligne politique, de ne pas avoir un plan d'action clair et de ne pas avoir un patron à temps plein. C'est ça qui est gênant pour La République En Marche. C'est pas le fait de pas faire de rentrée politique à La Rochelle.
Ça manque de structure, de cadre, de parole organisée.
Le projet ouais. En Marche, ça s'appelait En Marche à ce moment-là, s'est mis a eu une seule mission jusqu'à présent. Ça a été de porter au présidentiel la candidature d'Emmanuel Macron. Et ça a été un sacré succès. Les législatives n'ont été que la réplique de la première secousse. Maintenant, La République En Marche, c'est beaucoup de sympathisants, pas mal de cotisants quand même, beaucoup d'argent, parce qu'il y a toutes les rentrées... qui viennent des dernières campagnes,
gagne encore plus d'argent.
Donc il faut poser un projet politique qui aille au-delà de la machine à gagner une élection qu'elle a été. Et pour ça, il faut travailler et il faut travailler sur le terrain. Il faut quelqu'un qui s'en occupe à temps plein. Je pense qu'il y a un vrai sujet structurel et un sujet de définition
pour vous,
de projet politique.
C'est pas le problème des universités, c'est la structure.
Albert Zénou, un symptôme, je suis d'accord.
Albert Zénou, vous êtes frustré vous-même, vous qui adorez la vie politique.
Je suis très très frustré parce que j'aurais aimé avoir une université d'été avec des parlementaires des élus ou des militants marcheurs qui seraient venus expliquer pourquoi ils adorent toujours autant Macron. Ce qu'on venait de dire, c'est un certain symptôme, le fait qu'il n'y ait pas d'université d'été. Alors, certes, ils peuvent ironiser sur le fait que les vieux partis, l'ancien monde faisaient ça, donc nous, on va pas le faire, mais s'ils le font, c'est parce que ils ne peuvent pas le faire. Non seulement ils ont peur effectivement des remontées de terrain, mais ils ont peur aussi de la vacuité des programmes. Mais le pragmatisme qui a été le fer de lance du macronisme, s'arrête rapidement. Enfin, on peut être ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche. On voit bien les limites de l'exercice. Et cette pauvreté programmatique, cette pauvreté de l'idéologie. Enfin, il faut pas avoir honte de ce mot. Fait que les marcheurs et En Marche a un déficit cruel de représentation et de percer dans l'opinion française.
Pierre Jacquemin, c'est nouveau monde que de ne plus se livrer à ce type d'exercice. Tenez, la France Insoumise, au hasard, hein, avec Jean-Luc Mélenchon à Marseille, démarre son université, sa rentrée jeudi. Oui. C'est vieux ou c'est...
Dès lors qu'il s'agit de s'ouvrir vers les autres, de s'interroger, de poser des questions, de dessiner un projet, de nouer des convergences aussi, ça me paraît être un exercice tout à fait nouveau monde, mais pas le monde d'Emmanuel Macron, visiblement, où on n'a pas vraiment le droit de penser différemment. En tout cas, c'est ce que donne l'impression cette Assemblée nationale, qui se ressemble pour beaucoup parmi les députés de La République En Marche. La question que je me pose, un peu ironiquement, un peu provocante, mais c'est véritablement cette question, a-t-on le droit de penser différemment? Et si effectivement il s'agit de mettre autour d'une table des députés, des militants, des ministres de cette majorité pour entendre un discours dissonant, pour entendre un discours critique, je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à l'exercice. Et c'est un problème. Mais ça marque aussi, et c'est pas vrai qu'au sein de La République En Marche, ce décalage qu'il y a permanent entre les militants politiques, Le Monde a fait un très beau papier d'ailleurs là-dessus, entre les militants politiques et leurs dirigeants, à la fois les dirigeants des partis politiques, mais aussi les dirigeants qui sont ceux pour lesquels ils ont été élus, où ils sont aujourd'hui en responsabilité. Donc oui, c'est dommage cette absence de rentrée politique pour La République En Marche, parce que c'est aussi une occasion de donner à voir un projet et puis de montrer aussi qu'il y a un débat et que le débat il est sain, partout quel qu'il soit, et même s'il est contradictoire et s'il s'oppose, c'est plutôt positif. Et à noter, pour revenir sur la question de la France Insoumise, que je crois même que l'ouverture va jusqu'à aller inviter des élus de droite, donc le débat est ouvert.
Allez, c'est la fin de cette édition des Informés. Tiens, Sybille Vincent, donc qui a-t-il à la une de Libération demain?
C'est incroyable, c'est à chaque fois ça me piège.
Je me suis dit, est-ce qu'elle le saura cette fois-ci? Allez, je vous soulage, Albert Zenou, la une du Figaro demain.
Eh ben, moi, je le sais.
Au Figaro, c'est bons élèves.
C'est sur les défis de la rentrée pour Emmanuel Macron.
Allez, super. Écoutez, Sybille, je vous propose, vous me passez un coup de fil, on tweet ça tout à l'heure sans problème. Je vous remercie tous les quatre, Sybille Vincendon, Albert Zenou, Xavier Alberti et Pierre Jacquemin, d'avoir participé à ces Informés sur France Info. Pour ma part, je vous dis à demain soir, à la même heure, 20h, les Informés sur France Info. Merci.